Bonjour, bonsoir, bon appétit. Vous êtes sur Radio Campus 88.3. Vous écoutez Double Saut en présence de Clément et Amir. Bonjour Amir.
Bonsoir et bonne année.
Bonne année, c'est vrai, ça fait 2 mois. Normalement, on est là tous les mois, mais bon, on a eu un peu de mal ces 2 derniers mois. Donc, on espère qu'on vous a pas trop manqué. En tout cas, vous nous avez beaucoup manqué. Tu m'as manqué.
C'était intense comme sensation de manque. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de dépérir. Voilà.
Ça va mieux ?
Une seule émission vous manque et toute la Terre est dépeuplée. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, Double Saut est de retour, 88.3, Radio Campus. Mais monsieur Clément,
oui.
C'est quoi le sujet ce soir ?
Le sujet, ça va nous diviser, toi et moi. Je pense qu'on sera peut-être plus amis à la fin. Je sais pas, j'ai peur. On va parler de rejouabilité dans le jeu vidéo. Oui, c'est vaste sujet, très 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 vaste sujet.
Éloignez les enfants, mesdames et messieurs.
Ça va saigner dans les oreilles. La rejouabilité, bien sûr, c'est large. Et quand on a préparé l'émission, on était instantanément pas d'accord. Il y a deux teams. Il y a team, on va dire qu'il y a team cœur et team cerveau.
Je suis dans la team cœur, mesdames et messieurs.
Ça a l'air plus sympa, mais je suis dans la team cerveau. Donc la rejouabilité, la définition à laquelle moi, avec laquelle je suis moins d'accord, c'est la rejouabilité, c'est la faculté à un jeu à te pousser à y rejouer une fois terminé. Moi, ce qui me pose problème dans cette définition, c'est le mot terminé. Toi, c'est ce qui te fait plus plaisir, je pense.
Oui.
On va pas vous parler des jeux services parce que du coup, dans cette définition-là, FIFA, Call of, vous finissez votre partie, vous y rejouez après. Donc, c'est des jeux blindés de rejouabilité. T'es d'accord, non ?
Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Et bah, moi, pas du tout. Voilà. Bonne émission à la semaine prochaine.
Allez, au revoir. J'espère que ça vous aura plu. Non, peut-être déjà, si je peux donner un petit élément de contexte. Moi, je vous conseille la vidéo de Game Next Door là-dessus qui explique... ce qu'on va dire différemment, même si c'est vrai que comme le souligne Pinson, bah, je pense qu'ils sont team cœur. Voilà. Mais la rejouabilité, là où on a commencé à se poser des questions et à débattre, c'est que moi je lui disais que intrinsèquement, avec par exemple les jeux d'arcade au tout début, tout était rejouabilité. Parce qu'en fait, on venait et on rejouait à son jeu, qu'on terminait ou pas d'ailleurs. C'est là où. Pour moi, la rejouabilité qu'on entend et dont on viendra plus tard, c'est un complexe plus large. C'est quelque chose d'un peu plus vaste. Mais c'est pourquoi on ne va pas inclure FIFA et tout ça, et Call of. Bien tout simplement parce que, comme le disait Clément, c'est des jeux...
Moi.
C'est toi, oui. C'est des jeux qui, en fait, sont faits pour qu'on y rejoue tout le temps.
Ouais, c'est ce que je t'avais dit un peu plus tôt. En fait, je vois ça comme une forme de rejouabilité marketing. En fait, la borne d'arcade, le but, c'est que ça fasse de l'argent. Donc, il y a des courbes de difficulté, il y a des niveaux plus durs que d'autres. Le but, c'est que tu perdes pour que tu repayes. Et voilà, moi, c'est là où, déjà, ça me touche moins. Cette rejouabilité me touche moins, peut-être, on peut dire ça comme ça. Mais instantanément, moi, j'avais noté dans mes notes... pas de FIFA, pas de Call of, pas de LOL, pas de Dota, pas de TFT, parce que c'est des circuits, on va dire, courts. Tu fais une partie, le but, c'est que tu y rejoues après. Et c'est vrai que je te pose la question, est-ce que les jeux d'arcade, maintenant, sont tous des jeux services comme FIFA ? Et du coup, est-ce que tous les jeux services ne sont pas, dans ce cas-là, des jeux à forte rejouabilité ? Voilà. Vaste question, hein, bien
Alors,
sûr.
Alors, je répondrai ce qu'a répondu une fois le révérend dans les Simpsons, hein, le révérend Lovejoy. Réponse courte, oui, avec un mais, et réponse longue, non, avec un si. Voilà.
C'est beau. Donc il y a clairement une part de, et on le verra par la suite, il y a clairement une part de subjectivité dans l'analyse de la rejouabilité. Donc on va pas parler des jeux d'arcade. Moi j'aimerais aussi qu'on ait une réflexion sur, avant de rentrer dans le vif du sujet vidéoludique, qu'on ait une réflexion sur la rejouabilité dans d'autres médias, dans d'autres formes de divertissement.
Donc je peux poser ma question ?
Tu peux, mais tu fais ce que tu veux.
Alors, je pose une question. Vous avez le droit d'y répondre aussi, vous, dans votre tête ou à voix haute. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Je la pose à Clément, parce qu'il est en face de moi, mais je la pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a vraiment un film ou des films, une série, un livre, quelque chose vraiment que tu prends plaisir à revoir, à reparcourir ? Est-ce qu'il y a une œuvre artistique comme ça ? tu sens qu'elle est intrinsèquement liée à ton être et avec laquelle tu partages différents moments de ta vie.
Dans lequel je me définis un peu, ou dans lequel je me reconnais. Oui, oui, bien sûr, il y a plein... Quand on a réfléchi à ça, finalement, tu vois, genre, il y a des films que j'ai aimé regarder, re-regarder, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'un film comme Fight Club, que j'ai adoré à une époque et que je pourrais encore regarder maintenant, parce que je trouve que tu as plusieurs niveaux de lecture et que tu ne le vois pas tout de suite. Tu vois, il y a certains films de Quentin Dupieux où je sais que j'attends un peu avant de les regarder, mais j'ai prendre un plaisir à les regarder. D'autres, tu vois, on parlait un peu plus tôt des livres et des manières de regarder une œuvre. Quand on grandit en tant que spectateur, je pense que voilà, tu regardes un peu de manière différente. Ou des séries comme Scrubs, où il y a une forme de nostalgie. Ah, j'aime bien leur relation.
Justement, en fait, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire, mais on la voit déjà, la team cœur et la team cerveau. Parce que là, dans ce que tu as dit, j'y ai pas pensé quand on en a parlé entre nous avant, on prépare l'émission parfois. Quand on a parlé, ça m'est apparu clair. En fait, tu prends plaisir à revoir un film parce que tu cherches les autres grilles de lecture. Tu cherches peut-être, est-ce qu'il y a une autre analyse possible que ma première analyse. Moi, par exemple, un film comme Once Upon a Time in the West, il était une fois dans l'Ouest, je prends plaisir à le revoir, pas parce que je crois qu'il y a plusieurs grilles de lecture, mais parce qu'il y a des moments, des tableaux, des instants que je trouve tellement fort, quoi, qui me font vivre une émotion profonde, de temps en temps, j'aime me replonger dans ce frisson ou dans ce bouleversement, voilà. Et tu vois, il n'y a aucune analyse, en fait. C'est vrai. Chercher l'émotion de l'instant.
Quand je te dis Scrubs, je suis clairement là-dedans, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand je revois quelque chose, je peux pas m'empêcher, pas Scrubs et pas ce genre de choses, mais il y a des films, quand je les revois, je me dis, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus? Tu vois, je m'endors jamais devant un film, on a toujours ce truc-là, on est dans le canapé avec son compagnon ou sa compagne.
Je peux pas en dire autant devant Inception.
Devant Inception. Mais voilà, moi j'ai cette incapacité à dormir devant une œuvre que je connais pas. Par contre, il y a des choses que je peux re-regarder, et mon corps, il s'en contrefout de s'endormir devant, parce que je l'ai déjà vu. Mais je pense que t'as raison, on voit déjà là les prémices de cœur et cerveau. Je vais plutôt dire cœur et logique, parce que cerveau, ça fait un peu pompeux. Enfin voilà, c'est vrai que là, dès ces réponses-là, on sent un peu la différence d'analyse du média. On va en revenir du coup aux jeux vidéo. Dans cette première partie qu'on a appelée la subjectivité, qu'est-ce qui fait, quel jeu t'as aimé rejouer ?
Mesdames et messieurs, j'ai fait une liste. Voilà, ceux qui nous écoutent remarquent peut-être que je me mets à faire des listes. Et il faut avoir des passions, on m'a dit. Et donc j'ai une passion maintenant, c'est les listes. Ma liste, c'est les jeux que j'ai apprécié rejouer. Alors il n'y a pas d'ordre, voilà, c'est une liste sans hiérarchie, évidemment. Je dirais Tetris. Et là... Je rigolais pendant qu'on parlait qu'on n'inclurait pas des jeux d'arcade. Je me suis dit, c'est vrai, je triche un peu. Mais je crois pas qu'il y ait eu spécialement de bornes d'arcade Tetris. Il y a dû en avoir, mais le jeu n'était pas spécialement. C'est pas un jeu qui a été développé pour l'arcade à la base. C'est sorti sur PC, puis les consoles de salon de l'époque. Voilà. Donc, c'est pas en soi un jeu d'arcade. C'est un jeu un peu arcadien dans le principe, quand même. Parce que. Voilà, mais Tetris, concrètement, on refait une même partie en boucle. Alors, est-ce que c'est le premier roguelike ? Tu y répondras plus tard.
Je peux y répondre tout de suite ? Non. Voilà.
Mais en tout cas, voilà, Tetris, moi, c'est un jeu, même aujourd'hui, je prends toujours plaisir à enchaîner les parties de Tetris, quoi, ça ne me lasse pas. Après, évidemment, il y a des jeux un peu plus complexes. Je vais parler de Game Dev Tycoon, qui est un petit jeu
de gestion
où vraiment, si vous êtes amateur de jeux vidéo, moi je peux que vous le conseiller, parce qu'on suit toute l'histoire du jeu vidéo. On commence dans un garage au milieu des années 70, et si on s'en sort pas trop mal, on finit dans une belle société de la Silicon Valley fin des années 2010 avec la sortie de la Switch. Et donc c'est assez cool, voilà, moi je vous le conseille, et c'est un jeu, toi et moi, qu'on a pris plaisir à refaire plein de fois, tout seul, ensemble, parce que c'est vraiment drôle. Voilà. Après, il y a GTA V. On en parlait la dernière fois en fait. Et je te disais que je te rappelais un souvenir qu'on a tous les deux d'un week-end où on a refait le jeu en entier. Parce que dans le jeu, peut-être pour ceux qui ne savent pas, il y a des missions au milieu du jeu, celle de Lester. Et si on les bypass, si on fait la première et qu'on fait pas les autres, qu'on attend la fin, qu'on ait fait les derniers braquages pour avoir un maximum d'argent à miser sur ces missions en fait qui jouent avec la bourse, et bah on finit le jeu avec des milliards au lieu de finir avec quelques millions. Mmh. Et donc comme j'avais envie de m'amuser un peu, bah on a refait le jeu pour que avoir des milliards. Donc sachez-le, une fois dans ma vie, quelque part dans le monde virtuel, j'ai été milliardaire. Voilà, ça me touche. Et j'étais prêt à redistribuer ma fortune, n'est-ce pas, monsieur Arnaud ? Alors, donc, après, il y a Mario 64. Super jeu. Évidemment, moi, je trouve que ces mécaniques marchent encore. Et si là, demain, quelqu'un a Super Mario, bah, j'adore y jouer. Et j'aimerais, Mario 64, et j'aimerais préciser un truc. On a une amie à nous qui a son fils qui passe des week-ends avec ses potes, son fils de 16 ans, à s'entraîner à faire des speedruns de Mario 64. Et bah moi ça, messieurs dames, ça me touche.
Et le speedrun, ça joue vachement dans la rejouabilité.
Ça me touche de savoir que des jeunes de 16 ans ont eu le même plaisir à jouer à ce jeu que j'ai eu quand je l'ai découvert et que j'ai maintenant. Et vous voyez, je pense que ces éternels débats, le jeu vidéo c'est de l'art, ça n'est pas... C'est pas grave. Ça, c'est quelque chose... Qui se transmet. Et la transmission, eh ben, y a quelque chose d'artistique dedans. Voilà, vaste débat, on va pas rentrer dedans. Et enfin, Minecraft, c'est le dernier de ma liste. Tout simplement parce que une phrase que je t'ai souvent dit, c'est « Ah vas-y, ça saoule, faut qu'on recommence au début. » Mais j'ai quand même envie là, de refaire un peu de Minecraft. Toutes nos parties, de toute façon, on sait jamais où elles sont sauvegardées. Où elles sont, et bref. Mais voilà, quoi. C'est des jeux agréables à rejouer, non ?
Ouais, c'est... alors dans les jeux que tu cites... Il y aura des éléments sur lesquels on reviendra après, parce que là, encore une fois, on est sur de la subjectivité. Donc, ce que tu viens de citer, c'est des bons jeux. Donc, un peu comme un bon film, une bonne musique ou une très bonne tarte au citron. Si tu as aimé ta première part, tu as envie d'en prendre une deuxième parce que tu es un petit gourmand.
Petit goût de reviens-y.
Voilà, bien sûr. Moi aussi, quand, dans ma liste, j'ai mis GTA V, j'ai mis des jeux comme Final Fantasy, où bah, le jeu, tu l'as tellement aimé. Et un peu comme ce qu'on disait sur les films
précise
et les séries.
Précise peut-être le 7.
Le 7, le 8, bon, j'ai refait le 8.
Parce que Final Fantasy, c'est tellement large que... C'est...
Oui, mais en général, je pense que ceux qu'on... Tu vois, peu importe si c'est le 7, le 6, le 5, si tu l'as aimé, qui t'a touché un peu comme on parlait de Scrubs ou de films, t'y reviens parce que t'as ressenti quelque chose à un moment donné dans ce jeu. Mais voilà, la rejouabilité de ces jeux-là se base surtout sur le fait que ce soit des... que ce sont des bons jeux. J'ai noté aussi, et ça me permettra de nous excuser pour la rétrospective, la dernière émission, la rétrospective de 2023, on a complètement oublié de parler de Baldur's Gate. Je joue à Baldur's Gate, je suis à deux parties, une partie où je suis en solo et une partie où je joue avec ma compagne. Baldur's Gate, vous jouez 10 heures et en fait au bout des 10 premières heures, vous faites « Ah, j'ai hâte de recommencer le jeu ». Le jeu, il fait entre 80 et 120 heures d'histoire, t'as fait que 10 heures. Et tu te dis déjà, j'ai hâte de rejouer pour faire différemment, pour prendre un autre personnage, voilà. Il y a tellement des propositions enfin, il y a tellement un champ des possibles dans le jeu qui est fort que t'as déjà cette notion de te dire, j'ai envie d'y rejouer. Je vais déjà créer une partie parallèle, voilà.
C'est ce que je te dis, je pense que dès qu'il y a des choix...
Oui, dès qu'il y a des choix et de l'aléatoire, on reviendra un peu là-dessus. Là, je pense qu'il y a aussi ce système, enfin, on parle de Tinker, c'est que si le jeu est bon, si le produit est bon, t'as envie d'y retourner, quoi. Même s'il y a... En plus, plus on avance, plus l'offre vidéoludique, elle est diverse et variée, mais on a quand même tendance à revenir à ce qu'on préfère, quoi.
Oui, mais c'est là qu'est la question, c'est que, par exemple, c'est précisément ce que tu dis là avec Baldur's Gate et la rejouabilité. C'est que un jeu, il est bon, t'es en train de faire ta partie, t'es à 10 heures sur 80 heures, techniquement, tu devrais te dire, tout ce que t'as envie de faire, c'est de continuer. Mais certains jeux te font penser, j'ai direct envie de le recommencer. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, mais ça marche pas, tu vois, dans ton exemple, ça ne marche pas avec Mario 64, en fait. Mario 64, tu te dis pas au milieu de ta run, oh là là, j'ai envie de recommencer. Tu te dis, j'ai envie de finir le jeu, de faire 120 étoiles, et puis j'y rejouerai dans 3 ans. Tu vois, c'est pas les mêmes notions de rejouabilité, ça va pas taper dans les mêmes choses. Mario 64, c'est un très bon exemple de cœur. GTA 5, c'est un très bon exemple de cœur, tu vas pas jouer de manière différente. Tu vas quand même faire le zinzin, tuer des gens. Tu vois, c'est ça sur lequel je voulais insister quand même, c'est que t'as cité, tu as Game Dev Tycoon, c'est un super jeu, mais en même temps, sa rejouabilité se fait en même temps sur d'autres critères. Moi, dans mes listes, j'avais aussi noté un jeu qui prend un peu à contre-pied ce qu'on est en train de dire. Outer Wild, The Outer Wild, il y a un S ? Bref.
Non, il n'y en a pas, je crois.
Outer Wild. Le jeu est excellent, j'ai adoré le faire avec toi. J'aimerais pouvoir le refaire, mais c'est un peu comme si t'as aimé un escape game, t'as trouvé la salle trop bien, ben tu peux pas y retourner, tu connais déjà les mots de passe, tu connais les codes, tu sais où sont cachées les choses, et donc t'as pu ce... Il y a des jeux comme ça où ça ne peut être que sur la première découverte.
Bah, c'est qu'en fait, je pense vraiment, Outer Wilds, c'est un pur jeu de découverte ou d'enquête, quoi. Et donc, pour moi, il n'y a pas de plaisir à redécouvrir. Enfin, tu peux pas... En plus, vraiment, il n'y a aucune grille d'analyse différente dans ce que tu vas découvrir, quoi. Donc, pour moi, ce jeu, c'est une pure bulle.
Mmh.
C'est... Tu l'as parcouru, tu l'as fait, c'était une expérience. Je vois pas d'intérêt à y rejouer.
Tu peux te tromper en plus, tu vois. Quand tu dis ça, je pense à Ellie Noir. Mais Ellie Noir, si t'as fait ton histoire et que tu te rends compte que tu t'es trompé sur certaines, avec certaines interactions, tu t'es trompé dans les enquêtes, tu peux te dire bon, attends, je sais que je me suis planté, j'ai envie de recommencer et d'essayer de m'améliorer. À Outer Wilds, si t'as fini le jeu, t'as fini le jeu.
Surtout qu'Ellie Noir te propose un truc très objectif dans le gameplay. À la fin, il te score comment t'es devenu un détective. Donc je peux très bien te dire, moi j'ai envie de faire du AA partout, quoi, et donc de bien faire le jeu, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair.
Qu'à Outer Wilds, t'as aucun truc, quoi. Enfin, tu découvres, tu sais pas si tu découvres bien ou mal, quoi. Tu découvres tout le jeu et puis tu finis par comprendre toi-même.
Et tu vois, en fait, moi c'est ça ou instantanément, et pourtant, c'est ce qu'on en parlait avant, moi je l'ai mis cette partie. Moi à la base, j'avais appelé plaisir et frustration, mais on est purement dans la subjectivité où forcément, si le produit est bon, et ben. Oui, c'est ça, t'as envie d'y retourner. Mais du coup, moi qui vois pas la rejouabilité comme ça, c'est comme n'importe quelle œuvre, comme si c'est bien, et ben en comparaison avec d'autres choses qui le sont moins, bah parfois t'as envie de... Tu vois, si tu regardes un film, bah plutôt que regarder un film qui vient de sortir qui est moyen, et ben t'as peut-être envie de regarder un film que t'as pas vu depuis 5 ans, que tu sais que tu adores. Et tu vois, le nombre de fois où... Je sais pas, est-ce que t'as compté le nombre de fois où tu as regardé The Mask, par exemple? Moi, je sais que la dernière fois que j'ai vu The Mask, t'étais dans la pièce. Et je sais qu'avant ça, sur les 15 dernières années, je l'avais déjà revu au moins 2 ou 3 fois. Parce que t'arrives à un moment donné où tu te dis, tiens, là, c'est le moment parfait pour se faire un film. Eh ben, je vais regarder celui-là. Sachant que je le connais, ouais, en long, en large, en travers.
Tu vois, par exemple, c'est là aussi où la rejouabilité, c'est ultra subjectif. Bon, c'est bien que t'aies choisi The Mask. C'est un film que j'ai adoré dans mon enfance. Et c'est un film pour qui j'aurais, je pense, toujours une certaine chaleur. Par contre, mes goûts, en tout cas ma manière d'appréhender les films, a évolué au fil du temps. Et maintenant, il y a des choses que je trouve, si je trouve génial de transposer un cartoon dans un film. Et moi, j'ai été un peu un enfant des cartoons quand j'étais petit. Donc c'est un humour qui me fait beaucoup rire, qui est ce qu'on appelle la slapstick comedy en anglais, quoi. Et par contre, aujourd'hui, je suis... naturellement, c'est plus le film sur lequel Doudou, c'est plus un de mes films Doudou, mais
je l'ai pas vu venir, le film Doudou. Voilà. Je comprenais pas pourquoi tu parlais de Doudou.
Par exemple, je pense que ce que me faisait The Mask en termes d'émotion a été remplacé par un Django Unchained. Tu vois, mes Doudous ont un peu.
Si on pouvait ralentir sur l'utilisation du mot Doudou, parce que là, ça fait beaucoup trop de Doudou à la seconde. Mais je comprends ce que tu veux dire, hein, mais à mon film doudou, je t'imagine cajoler l'affiche de Django Unchained.
The Mask, c'était clairement mon film doudou, quoi, quand j'étais, parce que je pense qu'il y a quelque chose de la personnalité qui m'intéressait, quoi, ce côté à la fois très introverti dans ses sentiments, dans son rapport amoureux.
Et réconfortant.
Et à la fois un type complètement grandiloquent qui fait n'importe quoi. Je pense que c'est quelque chose dans lequel je me retrouvais, voilà, tout simplement, même si c'est une figure hyper, hyper simpliste, en fait. Il est gentil, quoi. Bon, mais c'est bien des fois d'avoir des gens juste gentils.
Oui. Après, du coup, ça marche pour, et c'est là où moi voilà, on y reviendra, c'est là où moi, ça me dérange un peu, c'est que du coup ça marche pour tout ce qui est bon, en fait. Un jeu, du coup, il est rejouable s'il est bon. Sauf si la substance en elle-même...
Est-ce qu'on est en train de dire que la rejouabilité, c'est un peu un jeu doudou ?
Personne ne dit ça à part toi.
Je voulais.
Et non, j'ai mais c'est hâte. Pas... J'ai hâte qu'on passe à un truc moins subjectif où Doudou ne sera beaucoup plus difficile à placer. Tu peux toujours essayer. Hein, ça peut être un challenge. Mais ok. Donc la rejouabilité, c'est le confort, c'est le réconfort, c'est la tendresse. C'est ce goût de reviens-y parce que tu sais que c'était bien et t'as envie de te manger la même caresse sur le visage.
Je crois. Bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, je te disais par exemple Breath of the Wild. C'est pas un jeu auquel j'ai envie de rejouer. À chaque fois que... Parce que j'ai eu un ami qui, à un moment donné, il y a un ou deux ans, faisait Breath of the Wild pour la première fois. Et de parler avec lui, c'était un peu frustrant parce que on se rappelle de tous ces bons souvenirs qu'on a eu à faire le... Waouh, il est génial cet endroit. Waouh, et là j'ai trouvé un truc. Et j'ai trouvé un autre truc. Et bref. Et à chaque fois, pourtant, je me disais, bah, j'ai pas envie de recommencer parce qu'en fait, je suis passé par là. Alors que par exemple, Mario 64, ça me fait pas ça du tout parce que c'est juste des challenges courts. C'est pour ça que ça va être intéressant de parler du roguelike. Et je me demandais, avant de rentrer là dans un sujet un peu vif,
oui.
Est-ce qu'il n'est pas l'heure de bounce?
De bounce. You need to bounce. C'est, yes. Là, de toute façon, c'est ton moment musical, oui, sur toute l'émission.
Mesdames
donc,
et messieurs, je me suis permis une petite.
Je n'ai folie.
Pas. Voilà, merci. Et pas Yann Folie, qu'on soit clair. En fait, nous allons écouter trois fois la même musique au fil de cette émission, mais trois versions différentes, évidemment, parce que nous sommes des petits coquins et nous avons joué avec l'idée de rejouabilité. Nous vous proposons donc. C'était très clair et je ne le répéterai pas.
Tout compris.
Évidemment. Saint James Infirmary, première version Frances Faye. Et mesdames et messieurs, je vous conseille de vous lever histoire de danser un peu.
And the usual crowd was there. On my left stood Joe McKennedy. His eyes were bloodshot red. He turned to the crowd around him, and this is why he said, I went down to the St. James Infirmary. I saw my baby there, stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go. Let her go, God bless her, wherever she may be. She may search this wide world over and never find as sweet a man as me. So the gang will know I'm standing pat. I want six crab shooters for pallbearers, a chorus girl to sing me a song, put a jazz band on my hearse wagon to raise hell as we roll. Anyone should happen to ask you, well, I've got those lonely gambler's blues. Her. I've got those gamblers' blues.
Ça bounce très très fort sur Radio Campus 88.3.
Et c'est toujours double saut.
Toujours Clément et Amir. Et cette fois-ci, on va sortir un peu de la Team Cœur. Enfin. Ça va arrêter de parler de doudou, une sortie de nulle part. On va parler de la difficulté pour la rejouabilité. Alors, il va y avoir plusieurs parties. Chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Parce que moi, quand je pensais à difficulté pour la rejouabilité, je pensais au NG+, au New Game+. Quand vous finissez vraiment le jeu, on vous propose de continuer avec votre personnage, mais de recommencer depuis le début, de garder vos armes, vos compétences, mais que le jeu soit plus dur à partir de maintenant.
Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait ça une seule fois dans ma vie. Voilà, je tenais à préciser aux gens quand même, je n'ai jamais participé à un New Game Plus d'aucun jeu.
C'est pas trop ton type de jeu. C'est vrai, quand on va penser à New Game Plus, surtout maintenant, on va surtout penser à des Souls-like. Là, ces derniers temps, bah, c'était Elden Ring, c'était Lies of P, dans les plus gros qui sont sortis l'année dernière et l'année d'avant. Le New Game Plus, ça a cette notion en plus d'être un peu lié au complétionnisme. Si vous avez écouté l'émission, on a parlé de finir ces jeux à 100%. La rejouabilité, c'est aussi ça, c'est de regarder la liste des succès. Ça se fait de moins en moins, parce que c'est moins à la mode de finir son jeu à 100%, mais sur ce genre de gros jeu avec du NG+, aller regarder les succès, dire, bon voilà, l'exemple d'Elden Ring, c'est il y a trois fins différentes, c'est cette volonté d'aller voir les trois fins, donc d'avoir une direction dans les quêtes et dans nos interactions avec certains personnages non-joueurs différentes. Et voilà, ça te pousse un peu, ça te pousse à rejouer. Ça, littéralement, c'est la rejouabilité de ce genre de titre.
Mais tu vois, moi, en tant ma partie du cerveau sur mon positionnement sur la rejouabilité, c'est que si je choisis de rejouer à un jeu, alors le choix du jeu que je vais choisir, c'est le cœur. Mais par exemple, si dans mon cerveau, c'est ah là, j'ai envie de rejouer à un jeu, tu vois, pas de faire un nouveau jeu, de rejouer à quelque chose. Et eh ben, je vais justement, en fait, il y a un truc, pour moi, il faut que ça soit une page qui se soit tournée. Genre, je viens de finir un jeu, je viens de passer 50 ou 60 heures dessus. Je peux pas m'imaginer, genre, reprendre à zéro en. C'est subjectif ça, hein, mais.
Mais c'est moi, pas vraiment reprendre à zéro.
Tu vois, oui, mais j'ai besoin à un moment donné de tourner la page avec un jeu pour le digérer.
Ça, je comprends.
Pour imaginer y rejouer.
Je tourne la page, là sur ce genre de jeu, parce que je vais garder les exemples de Elden Ring et Lies of P en tête. Sur ce genre de jeu, moi Lies of P, quand j'y ai joué parce qu'il était sur le Game Pass, et au départ j'étais là genre, bon, ok, c'est... après avoir joué Elden Ring, bah, Lies of P c'est un peu plus court, il y a moins de possibilités, il y a moins de choix. Mais plus tu joues, plus tu meurs contre les boss, et plus tu vois, ça grandit en toi. Et arrivé à la fin, tu te dis, bon bah, j'ai vu une fin, j'ai envie de voir l'autre. Surtout que Lies of P, c'est une histoire assez particulière de Pinocchio qui reprend les racines de l'histoire, vraiment de Pinocchio. Et du coup, tu arrives à une fin où tu te dis, bon, j'aimerais voir ce qui se passe de l'autre côté, juste pour avoir un peu cette info. Et le jeu t'a suffisamment plu pour te dire, bon, de toute façon, j'ai fini. Est-ce que vous voulez commencer votre NG+? Oui. Et vu que tu es plus fort que quand tu étais niveau 1 dès le début, tu traces en fait, tu roules beaucoup plus sur les gens, t'es pas là de taper n'importe quel monstre, t'arrives sur ton premier boss, bah le boss tu sais comment ça marche, donc tu lui roules dessus, et en fait tu te rends compte que ce qui t'avait pris 10 heures avant, tu l'as fait en 10 minutes, j'exagère un peu mais pas trop en même temps, parce que tu vois Elden Ring quand tu recommences, bah t'es pas là, aller en écrolin, bah te balader, à faire tous les trucs, tu sais ce qui est essentiel, tu sais ce que t'as à faire, tu sais où aller, et du coup t'as plus de recherche et plus foncer vers la fin. entre guillemets.
Je fais une parenthèse pour toi, moi, pour plus tard, pour les gens, sur ce que tu es en train de dire. Ce que tu disais au début sur les jeux services, dans cette rejouabilité, dans ce positionnement là qu'on n'arrive pas, il y a sûrement la question en fait du perfectionnement. Parce que moi là, ce que tu décris, c'est le perfectionnement. Et quand je rejoue à GTA V par exemple, ou à Minecraft, tu vois, j'ai pas forcément cette notion là de... Je sais que je suis de meilleur au jeu parce que j'ai joué depuis plus longtemps, mais en fait ça a pas vraiment de différence avec la dernière fois que j'ai joué.
Tu es plus efficace pour faire de ta cabane, pour aller chercher du diamant, t'as déjà tes réflexes de savoir où est quoi.
Je suis d'accord.
Je suis complètement d'accord avec ça. Non mais c'est juste pour dire à quel point je suis d'accord avec ta phrase. Je vais te lire littéralement ce que j'ai écrit sur pourquoi on parlera pas des jeux services. Ne parlons pas de jeux services ou multijoueurs, où l'essence même du jeu est d'enchaîner des parties. Dans un gameplay où la rejouabilité s'apparente plus au fait d'apprendre mieux les mécaniques ou encore de s'entraîner. C'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a quand on va penser au Call of, au FIFA, ça va être, tu rejoues, ou même à Dota, LoL, etc., les MOBA, tu rejoues, parfois pas par plaisir de jeu, mais pour être plus efficace. C'est des jeux en plus qui se partagent, t'as pas envie d'être le noob de tes copains. T'as envie d'être plus fort, de comprendre mieux le jeu.
Mais du coup, cette notion de perfectionnement, elle se retrouve dans d'autres jeux. Tu vois, ce que tu disais là avec Lies of P ou Elden Ring, où tu roules sur le boss, tu deviens plus fort, tu comprends mieux les mécaniques. Et quand même, toute l'histoire des jeux From Software, c'est ça, c'est le perfectionnement.
Oui, mais le perfectionnement ne vient pas avec la rejouabilité. Je veux dire, pour arriver à la fin du jeu, il faut get good, quoi. Sois meilleur.
Mais et du coup quand tu recommences, tu es encore plus fort. Bah, c'est ce que tu disais sur
Lies of P. Oui, mais c'est pas plus fort pareil. Y a pas de... C'est juste que tu connais, en fait. C'est... Ouais, vraiment, je vois la NG+, comme aller voir, c'est pour ça que je mélangeais le 100% et ça, c'est aller voir les autres fins, aller voir les choses que tu aurais pu rater parce que t'es passé à côté ou parce que bah, t'as tué la mauvaise personne, etc. Mais pour moi, dans cette notion-là, y a pas, tu vas pas dans l'NG+, pour te dire « je vais être encore plus fort ». Tu l'es déjà, t'as fini le jeu. Tu connais les... À moins que le NG+, ce qui arrive dans certains jeux, rajoute des nouveaux patterns à tes boss et que du coup, là, ils fassent des trucs que t'as jamais vu de ta vie. Mais d'ailleurs, dans Elden Ring, il y a tellement de patterns aux boss que... moi, je sais que je l'ai joué devant des gens où ils m'ont dit « Mais attends, mais j'ai jamais vu le boss faire ça. » C'était là depuis le début. Mais c'est juste que vu qu'il y a beaucoup de choix possibles pour l'IA d'utiliser des actions, bah, quand tu joues, des fois, l'IA, elle se sert pas du tout d'action, en fait.
Mais on est quand même dans la partie de la difficulté, donc il y a forcément cette notion de perfectionnement, elle est pas...
Elle est plus dans ce que tu disais, genre, ton exemple, quand on préparait l'émission de me parler de Resident Evil, ou même d'autres jeux, imaginons qu'en fait, tu lances ton jeu, et tu peux pas jouer au mode hardcore avant d'avoir battu le mode difficile. Et du coup, là, je suis d'accord avec toi, tu vas finir le mode difficile, donc déjà, il faut s'améliorer dans le jeu. Mais en plus de ça, là, quand tu vas recommencer le jeu, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu connais. Donc, il va falloir encore plus s'améliorer pour pouvoir passer le mode hardcore. Ce qu'il y a moins en NG+, parce qu'en NG+, tu as vu que tu as tous tes équipements, tes pouvoirs, tu connais le jeu, tu arrives et vraiment, tu roules un peu plus sur le jeu. Moi, je n'ai pas fait de Resident Evil où j'en ai pas fini, donc je ne peux pas me projeter. Mais j'imagine que quand tu passes du mode difficile au mode hardcore, un peu comme il y a le mode hardcore dans Hades, on reviendra sur Hades plus tard, des trucs te tuent en un coup, c'est plus du tout le même jeu, quoi. C'est vraiment, tu meurs en un coup. Donc ça t'oblige à jouer différemment. Là où, imaginons, t'arrives et tu sais que t'as tant de munitions de fusil à pompe et tant de PV que tu peux prendre tant de coups. Si le mode hardcore, t'as plus qu'un coup que tu peux prendre, voire zéro, parce que t'as plus le droit de te faire toucher, c'est plus du tout le même jeu. Et là, je suis d'accord avec toi, la notion d'entraînement dans la rejouabilité à travers la difficulté, elle est là, quoi. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, tu vois, cette notion de... À l'époque, dans les jeux, quand il y avait moins de jeux et que bah, justement le prix du jeu fallait le rentabiliser et il fallait proposer aux joueurs une nouvelle expérience, les niveaux de difficulté... Parce qu'en plus on parle du mode hardcore, mais moi je me rappelle des jeux où une fois que t'avais fini le mode hardcore, t'avais genre le niveau divin, quoi. Alors c'est encore pire.
Mais qu'on soit clair, hein, moi je n'ai jamais fini un jeu en mode super difficile.
Non, j'en doutais, mais pas du tout. Et donc, tu vois, c'est bien, ça fait une belle transition sur ce que j'avais noté en troisième point pour la difficulté, enfin la rejouabilité à travers la difficulté. T'as carrément des types de jeux qui sont basés là-dessus, qui s'appellent des Die and Retry. On avait déjà abordé ça dans l'émission avec le temps. Le but du jeu, là je vais vous citer trois noms, si comme ça si vous les avez en tête, il y a Super Meat Boy qui est un Die and Retry de type platformer, Hotline Miami qui est un Die and Retry En fait, votre but, vous voyez du dessus, et le but, c'est de tuer plein de gens à l'étage. Sauf que bah, vous mourrez tout le temps parce que vous n'avez pas vu que le mec à gauche, il vous voyait quand vous faisiez telle action. Et donc, ça vous oblige à connaître les maps par cœur. Les jeux trial, où c'est des jeux de moto, donc qui n'ont rien à voir avec les deux que je viens de vous citer, bah, c'est aussi des die and retry, parce que vu que c'est des actions toutes précises qu'il faut faire pour réussir ses sauts, pour continuer, et bah, on rentre aussi dans cette notion-là, où la rejouabilité passe par une connaissance presque par cœur de ce que le jeu a vous proposé. En fait, si tu connais pas la map par cœur, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et donc, bah, ça t'oblige à faire encore et encore et encore les mêmes actions pour essayer de trouver où ça va pas et où ça fonctionne. Et du coup, là, tu vois, la définition qu'on parlait de rejouabilité, où il faut d'abord terminer le jeu pour qu'il y ait une notion de rejouabilité, qu'est-ce que sont les die and retry ?
Bah, justement, pour moi, ça s'apparente plus, tu vas pas être d'accord, hein, mais c'est le combat, quoi, le fameux, ça s'apparente plus à FIFA. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais dans cette notion-là, on y rejoue pour les mêmes raisons, en fait. On veut se perfectionner, on veut s'améliorer.
Mais non, mais FIFA, tu finis ta partie, là. Moi, je te parle de trucs où tu ne finis même pas.
Non, mais j'ai compris. Mais je dis pas que le gameplay ou le jeu s'apparente à FIFA. Je dis que ce qu'on y cherche à ce moment-là, dans l'expérience de jeu, ça s'apparente à ce qu'on y cherche dans le perfectionnement des mécanismes et des mécaniques de jeu quand on joue à FIFA, en fait. On essaye de devenir meilleur à un jeu. Ah, pour des raisons autres, ou mais c'est pour moi c'est vraiment la.
Parce que dans tous tes exemples, tu deviens le meilleur pour essayer de rester compétitif. D'ailleurs, quand j'étais d'accord avec toi, je parlais de pas être le noob de ton groupe de copains. Là, ça parle, on parle de finir le jeu. C'est-à-dire que si en fait t'as acheté un jeu, si tu ne te pousses pas à rejouer, tu ne finiras jamais ton jeu en fait. Et en plus de ça, c'est littéralement dans le nom de la thématique du jeu, die and retry.
Non, mais t'as raison là-dessus.
En fait, je suis d'accord avec toi, mais sur certains aspects. Mais là, si tu compares genre Super Meat Boy à FIFA, ça m'a fait un peu mal. Je pense que ça a fait mal à 2-3 d'entre nous.
Bah non, parce que c'est pas ce que j'ai dit en fait. J'ai pas... Non, je comparais ce que les gens cherchaient dans un jeu.
Bah,
c'est pas comparé de jeu.
Je pense qu'on cherche pas le joueur de FIFA, il recherche pas la même chose
bah,
que celui qui joue à Trial.
Il y a des joueurs de FIFA qui jouent à Trial et à Super Meat Boy.
Ah bah, je leur souhaite parce que c'est des bons jeux, pas FIFA. Hein. Non mais moi je préférais le préciser.
Non mais on critique FIFA mais on critique pas les jeux de foot. Enfin moi perso je critique pas du tout les jeux de foot.
Ah non moi non plus
je critique FIFA et son modèle commercial.
Exactement.
Mais ça ouais. S'appelle même plus FIFA. Mais bref on s'en fiche parce que c'est pas de vraiment FIFA.
Mais tu
on
vois on,
pas
faisait,
sur eux,
on
mais...
faisait un comparatif et on enchaînera après. On faisait un comparatif dès le début avec les autres médias. Et du coup les films, les séries, le die and retry, ça s'apparente à des films comme Le Jour de la Marmotte, ça c'est la traduction littérale de Groundhog Day, mais en français c'est Un Jour Sans Fin, ou des films comme Code Source, Edge of Tomorrow, où le protagoniste, pour une raison X ou Y, revit sa journée en boucle et va être obligé de maîtriser par cœur sa journée pour pouvoir y arriver, aller au bout. Il rejoue tout le temps sa journée. Tu vois, il retry tout le temps. Et... pour moi, c'est un peu comme les roguelikes qu'on verra après. Le die and retry, c'est vraiment, il n'y a pas d'aléatoire, c'est faut une connaissance par cœur du jeu, donc ça t'oblige à même que tu le fasses, enfin sans le faire, je vois pas de notion d'entraînement parce qu'en fait, c'est t'as juste pas le choix. C'est que t'as le jeu que t'as acheté, si tu veux pouvoir le terminer, en fait le jeu te laisse pas le choix. Quoi. Tu vas mourir en boucle jusqu'à ce que t'arrêtes de mourir en boucle. Et puis le niveau d'après, bah tu vas te remettre à mourir en boucle jusqu'à ce que t'arrêtes de mourir en boucle. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ta forme de comparaison. Voilà. Je te sens pas d'accord avec mes propos.
Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais bon, je me suis... dans ce que tu disais, je cherchais la comparaison entre Grandin,
le jour
de la marmotte
fin, ouais.
Et Super Meat Boy... je me suis un peu perdu, donc j'étais pas prêt à ce que tu me donnes la parole maintenant, mais je vais quand même parler. Parce que la difficulté et ce que tu es en train de dire sur les die and retry, moi encore une fois, tu vois, c'est. Ben, est-ce que quand tu as terminé le jeu, tu as envie de le recommencer? Parce que vraiment, pour moi, et c'est là où le cœur de notre désaccord il est, hein, c'est que pour moi, si tu n'as pas fini le jeu, ben, tu n'es pas en train d'y rejouer, tu es en train d'y jouer, quoi. Tu es dans ta. Sinon, tu rejoues à tous les jeux, quoi, en fait.
Bah
tout le
non,
temps.
C'est toi si tu rejoues à tous les jeux tout le temps. Parce que moi, ma notion de rejouabilité, elle ne va que sur ce que je viens de te dire, donc c'est-à-dire, si on oublie le subjectif, hein, elle ne va que sur des jeux avec RNG+, Elle ne va que sur des jeux avec un die and retry, et comme on verra après, elle ne va que sur des jeux avec du roguelike ou de la gestion. La rejouabilité, pour moi, le fait de rejouer à GTA V, parce que j'ai fini GTA V, c'est pas de la rejouabilité, c'est juste, bah j'aime bien la tarte au citron, je vais reprendre une part.
Ah, vraiment, pour moi, vraiment, c'est ça, rejouer à un jeu.
Oui, mais dans ce cas-là...
Et c'est là où tu vois...
Fais un niveau 1 de trial et que bah, tu mets 150 tentatives à le passer, bon déjà c'est dur pour toi, mais ça veut dire quoi? T'as pas vraiment rejoué 150 fois? Tu vois ce que je veux dire? Genre le retry de Die and Retry...
T'as rejoué à tous les jeux 150 fois?
Bah non.
Parce que Zelda, tu commences ta partie, tu l'arrêtes au bout de 2 heures, tu reviens, tu joues...
Bah non, tu rejoues pas.
Bah tu rejoues...
Bah non, tu
oui, tu rejoues
pas
la même chose, c'est ça que tu veux dire.
C'est littéralement ce que veut dire rejouer. Oui, il y a re devant jouer. Tu vois, c'est là où moi, la définition de faut avoir terminé. C'est pour, en fait, la définition, je suis d'accord avec la définition. C'est le mot terminé qui me dérange. Non, mais
toi, c'est que tu vois ça vraiment au niveau micro, quoi.
Je vois au niveau chose. Gameplay. Oui. J'étais d'accord sur le subjectif. Hein. Je suis d'accord avec la team cœur. La team logique, elle n'est pas d'accord avec la team cœur. C'est juste que dans ce cas-là, si. La rejouabilité, c'est ça. Et ben, bah, c'est partout, c'est tout le temps, en fait. Et du coup, où est le débat si c'est dans tous les jeux?
Bah, justement, pour moi, le débat, il est dans quel jeu, quel gameplay, quelle mécanique, quelle histoire, peut-être, te pousse à une fois que t'as fini un jeu, que tu penses que t'as fait le tour de l'expérience, peu importe qu'il t'ait passé 10 heures ou 150 ou 300, une fois que t'as, te pousse à te dire, allez, je reprends depuis le début et je le refais ce jeu, comme un livre où tu te dis, allez. Je reprends la première page, j'y retourne.
Et bien pour moi, là, ça, c'est quand tu kiffes tellement... Parce que là, t'as dit faire le tour. Hein. Donc vraiment, quand t'as vu tous les aspects du produit, quand il retourne, c'est là où on commence à voir... Et c'est là où le speedrun, c'est beau. C'est là où les mecs se disent, j'aime tellement le jeu que la seule manière que j'ai d'y jouer encore maintenant, malgré le fait que je sais tout par cœur du jeu,
non, mais
et ben, c'est d'essayer de le speedrunner.
Moi, quand je dis faire le tour d'un jeu, c'est pas tout savoir par cœur du jeu.
Okay,
c'est GTA V que je savais pas tout par cœur du jeu.
Oui, oui.
La preuve, je l'ai fini la première fois sans connaître le truc des missions de Lester. Donc,
mais...
Non, mais moi, c'est vraiment dans ce sens. Pour moi, la rejouabilité, c'est ça. Tu vois, quand je parle de rejouabilité dans le jeu vidéo, j'entends hein, ce que tu dis sur tu refais en boucle la même chose. Donc, tu rejoues hein, et c'est... parfaitement logique, mais pour moi, ce qu'on a appelé la rejouabilité dans le jeu vidéo...
Qui ont ?
C'est une bonne question. Je saurais pas te dire exactement, mais pour moi, quand je lis des choses ou j'écoute des vidéos sur la notion de rejouabilité dans le jeu vidéo, ça part du principe qu'on a fini le jeu et qu'on y revient.
Oui, mais dans ce cas-là, donc c'est bien ce que je disais, la définition qu'on trouvait où il mettait en exemple Super Smash Bros. Ultimate... Les jeux de combat, c'est pas des jeux à rejouabilité. Et pourtant, si t'écoutes ta définition et les gens, tous les jeux de combat sont des jeux à rejouabilité forte. D'ailleurs, c'est que des jeux basés sur la rejouabilité.
Bah, non.
Tous les Call of, tous les jeux service, tous les jeux d'arcade.
Parce que justement, au final, ce que j'ai dit au départ, et ce que tu disais aussi, on était d'accord là-dessus, les jeux service, les jeux compétitifs, les jeux de combat, comme ils n'ont pas techniquement cette notion de terminer, de finir l'expérience, parce que l'expérience de ces jeux-là n'est pas là. Elle est dans le perfectionnement, elle est dans autre chose.
Oui, ça s'arrête jamais.
Voilà. Et bah pour moi, ces jeux-là ne peuvent pas rentrer dans cette catégorie de ce que j'entends, en tout cas, je vais dire ça maintenant, de ce que j'entends par la rejouabilité.
Oui, parce que ça ne se termine pas.
Voilà.
Mais on en revient, moi ce qui me pose problème, c'est le fait de l'utilisation du mot terminé. Je trouve que c'est trop... Là, je fais des cases avec mes mains.
Le film ou le livre. Hein, tu l'as fini ?
Oui. Mais ben, c'est là où je suis pas d'accord. Parce que du coup, le NG+, le Die and Retry, ça ne s'arrête jamais. Sauf quand tu auras fini ton jeu à 100%.
Bah, un Die and Retry, tu peux arriver à la fin du Die and Retry.
Oui, bien sûr. Mais bon, imagine à la fin du Die and Retry, il y a un NG+.
Oui, mais là, après, c'est ton choix de te positionner, d'y aller ou pas. Quoi.
Bien sûr, bien
mais
sûr.
Mais tu peux considérer que tu as fini le jeu sans faire le NG+.
Eh ben, on va parler de finir le jeu... Avec les roguelikes, juste après que tu nous aies présenté la musique.
Eh bien, la musique, on continue avec Saint James Infirmary. Mais ce coup-ci, nous partons
ce coup-ci.
Louisiane avec le fameux, le célèbre, le regretté, le regrettable. D'ailleurs, ils n'en font plus des comme ça, mesdames et messieurs, je crois. Je suis un boomer, car Dr. John me manque profondément. Reviens-nous, nous allons t'écouter.
À tout de suite.
Anytime she feel like, she say what she wanna say. Anytime she feel like, as we wind her up in the Touro Mall, making her little graveyard play. You know I went down to the St. James Infirmary now, now. Went to see my little baby down there. Stretched down on a cool white gurney. Yeah, I had a D-O-A sticker in her hand. Let her go, go, won't you bless her? Wherever that little girl she may be. I don't care if she's in heaven or hell or purgatory. She ain't never gonna find no man to love her like me. Look down the body, said, baby, when I croak, I want $10 gold piece on my eyelids. And I want loaded craps in my shoes. I want the finest working girls around here. I want the second line right in them stone funky New Orleans blues, all playing funky.
C'est mortuaire, ce docteur John, et évidemment, il est mort 88
fois. Ah la vache! Ah, ça a été très vite.
Radio Campus.
Hein. On est parti, il avait beaucoup double de respect, il voulait que ça revienne, il était un boomer, et là, il fait bon, bah, il est mort, bon, bah, très bien.
En même temps, c'est la vérité, je ne mens à personne.
Est-ce que tu as monté ton son un tout petit peu?
J'ai monté mon son un tout petit peu, je suis désolé, je suis toujours pas assez fort, mais...
Mais c'était très fort dans nos cœurs.
Ah, je suis un type discret, que voulez-vous? On m'entend à peine.
Donc, parce qu'on débat, et en plus, là, on n'est vraiment pas d'accord, donc on s'enchaîne, et on a pris un peu de
retard. En fait, le combat se passe hors antenne.
Se passe partout, se passe tout le temps, le combat. On va revenir, donc tu parlais de la fin des jeux, on va parler du roguelike, qui... Moi, est-ce qu'on parle du die and retry, tout ça, mais le roguelike, c'est l'essence même de la rejouabilité. Cette partie, elle va être on va parler de l'aléatoire. L'aléatoire, c'est, du coup, ça rend facile le système de rejouabilité, parce que vu que chaque nouvelle partie sera différente de la précédente par cette notion d'aléatoire, ça fait que c'est amené à... Voilà, on peut penser à des Binding of Isaac, où vous pouvez jouer 350 heures et jamais faire la même partie, ou l'exemple
c'est,
qu'on...
C'est ce qu'on appelle précisément aussi, enfin, il n'y a pas que ça dans l'aléatoire, mais notamment dans le level design, ce qui a amené tous ces levels procéduraux, en fait, qui permettent de générer des niveaux semblables, qui vont avoir les mêmes assets en termes de décor, mais qui sont jamais tout à fait les mêmes non plus. On ira à gauche une fois, à droite. Et donc, on est toujours dans la même chose, mais sans jamais être dans la même chose. Et ça, c'est... Je te coupe, mais ça, c'est quelque chose. Les roguelites, ou les roguelites... moi, depuis que j'ai découvert ça, je sais que c'est un des types de jeux que je préfère, parce que je crois que c'est une sensation que rien d'autre ne fait vivre. Aucun film, aucune série ne peut faire ça. C'est-à-dire, comme si on revoyait le même épisode, celui qu'on adore... mais il est toujours un peu différent. On va à la même fin, hein, on va au même cliffhanger, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'Hades, c'est vraiment l'exemple
mais
parfait.
Mais pas de la même manière.
Voilà. Parce que Hades, ils ont su intégrer toute la notion du roguelite, c'est-à-dire de mourir, dans leur histoire.
Ouais.
Et c'est pour logique, moi, ça a été incroyable, ça a été une révélation, et pas que pour moi, pour beaucoup, parce que d'un coup, le jeu était d'une cohérence totale, en fait.
Toutes les mécaniques, elles sont justifiées dans le lore. Même quand tu réussis à gagner, bah, t'as pas vraiment gagné parce que Zagreus ne peut jamais vraiment sortir des enfers et du coup finit par remourir dans le Styx, ouais, et revenir quoi. Ah oui, Hades, c'est un très bon exemple. Bah, GOTY 2021, 2020, je sais plus, le temps passe trop vite. On est vieux, de toute façon, t'as dit qu'on est des boomers. Voilà, c'est le roguelike, c'est l'essence même de rejouer. C'est vous faites une run, on pense à Rogue Legacy, voilà. Vous faites une run, elle se passe plus ou moins bien, vous mourrez, vous revenez. Le fait que vous ayez fait la run avant, vous allez débloquer des choses qui vont vous aider à aller plus loin ou à mieux vous en sortir sur votre run d'après. Et donc, ce qu'on disait à la fin de la partie d'avant sur la difficulté, sur la fin des jeux, quand est-ce que tu considères que tu finis Hades ? Hades, il y a des micro-fins. Donc, quand est-ce que c'est terminé ? Du coup, quand est-ce que... Parce que tu ne passes ton temps dans les roguelikes à refaire la même chose de manière... Bah, pas exactement la même chose, mais sinon, ça reste la même chose. Mais du coup, si on considère que la rejouabilité, c'est que quand on a terminé le jeu, tu ne rejoues jamais à Hades, en fait. Aucun roguelike. Tu ne rejoues pas. Parce que... Tu vois, Binding of Isaac, j'avais dit que j'y jouerais jamais. Je commence à avoir des centaines d'heures dessus. Et en fait... C'est quoi ? J'ai jamais rejoué à Binding of Isaac ? Alors que pourtant, je ne fais que ça. Chaque nouvelle run, c'est tu rejoues. Et c'est... en fait, l'existence même du roguelike fait que j'ai un problème avec la définition. Et avec le mot terminé.
Et c'est là où je propose qu'on étende la définition. Enfin, je propose. C'est ce qu'on se disait quand on discutait. Il y a peut-être deux rejouabilités.
Ouais.
Parce que moi, je considère que j'ai fini un jeu... Quand je suis arrivé au bout des narrations, quand le jeu a plus rien à me raconter, mais vraiment ce qu'on appellerait l'histoire, le scénario. Alors les jeux après comme Rogue Legacy, bon bah je me dis que il y a 5 mini-boss ou je sais plus combien à battre avant d'arriver au boss final. Bon bah j'ai battu le boss final une fois, j'ai fini le jeu. Moi pour moi c'est aussi simple que ça. Aussi souvent que je l'ai recommencé avant, c'était pour arriver à cet point culminant. J'avais identifié comme la fin. Et bah voilà, c'est fait.
Ok, donc si Rogue Legacy t'avait mis une petite pointe de finalement, il faut recommencer parce qu'en fait, il y a un vrai true boss. Et en plus, je crois que c'est ça sur le 2. T'as un vrai true boss derrière. Le fait de rejouer pour aller voir ce boss, ça rentre pas dans la rejouabilité ?
Je sais pas si je me suis dit, bon, écoute, ça dépend vraiment comment c'est amené ça. Je peux me dire, oula. Attention, moi j'ai fini le jeu. Hein.
Non mais là, je n'ai pas envie de rejouer. Parce que ouais, Hades, il y a vraiment une micro-fin, parce que vous allez battre votre papa une première fois, puis après vous allez chercher votre maman une deuxième fois, puis après en fait vous vous rendez compte que votre maman elle a des stratégies pour que ça se passe mieux entre les dieux, et vous allez chercher cette quête de la fresque commune avec les dieux de l'Olympe, donc une troisième fin,
voilà, et bien.
Puis une quatrième fin, pour ceux qui considèrent, parce que c'est des gros zinzins, de débloquer les trois statues du squelette qui vous sert de punching ball. Le punching ball ?
Moi, je considère que, pour moi, ce que j'ai identifié comme la fin, c'était la fresque. Ok.
Ouais.
Je ne suis jamais arrivé à la fresque. Je n'ai donc pas fini Hades.
Donc tu n'as jamais rejoué.
Exactement. Alors que je dois y avoir peut-être 80 heures, voire plus sur Hades.
Mais c'est ouais, c'est.
Voilà. C'est.
Il y a deux notions. Je suis d'accord. De toute façon, indéniablement, on le voit bien. Nos deux arguments sont. Tous nos arguments sont recevables. Il n'y a pas. Il y a pas d'hérésie dans nos propos. Donc, s'il n'y a pas d'hérésie dans nos propos, c'est que les deux vérités sont là.
Chaos, match nul, victoire de l'amour.
Du cœur, donc.
Et des doudous.
Donc, ouais, non, bah, finalement, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'Amir a dit pendant une heure. Les doudous, c'est fini. Il y a que les roguelikes. Le... non, mais c'est vrai. Il y a... On parlait de subjectivité, mais ça va. Faudrait vraiment définir plus que ça, parce qu'il y a une rejouabilité dans la mécanique, et il y a une rejouabilité dans le plaisir, en fait.
Dans l'émotion.
Et après, les deux se rejoignent, en fait, parce que si le jeu est bon et qu'il a des mécaniques de roguelike, d'aléatoire, de seed, voilà. De toute façon, tu peux pas le nier. Donc, je pense qu'il y a du coup trois. Rejouabilité, celle du cœur, celle de la mécanique, et la troisième qui est la quintessence des deux. Tant qu'il n'y a pas FIFA dans la rejouabilité.
On s'entendra là-dessus. Non, mais excusez-nous, parce que voilà, on est fatigué et on n'aime pas les gros coups commerciaux.
Ouais, c'est ça mon gros problème.
Moi, j'ai des ados qui dépensent des sommes fortunes pour avoir des cartes dans ces jeux. Et c'est de l'escroquerie.
C'est comme les jeux mobiles, hein, ça, voilà, ça fait mal.
Je suis un boomer et je le dis, un jeu vidéo, on l'achète, on n'a plus d'argent à dépenser dedans.
Bah, c'était à l'époque, c'est les phrases de boomer.
C'était
mais...
le bon temps. Quoi.
Non, mais c'est vrai que quand tu jouais qu'à 10 jeux par an, et ben, les 10 pauvres jeux que tu avais, il fallait les rentabiliser le plus possible. Donc, il fallait que le développeur ait prévu de la profondeur dans le jeu.
Non, là, mais maintenant, puis les costumes, tu les gagnais.
Oui, c'est vrai, tu les achetais pas, mais t'avais un jeu fini, c'est vrai ça. Bah, maintenant,
tu les achetais dans l'économie du jeu, quoi, ouais. Pas avec tes sous.
On pense à voilà. Toi, Fortnite.
Ouais, ouais, les microtransactions, je pense que ça ferait un très très bon épisode. Mesdames et messieurs, on vous embrasse parce que ce n'est pas des épisodes, c'est une émission.
Oui, c'est 88.3
Radio Campus.
On fait des gros bisous. Tu nous présentes le dernier interprète.
Eh bien, je vous présente John Batiste avec sa version de St. James Infirmary Blues. Mesdames et messieurs, à très bientôt.
À très bientôt, bisous.
The St. James Infirmary. And I saw my baby there. Stretched out on a long white table, yeah. So sweet, so calm, so fair. Let her go, let her go, God bless her, yeah. Wherever she may be. She can search this wide world over, yeah. But she's never, ever gonna find another sharp-dressing piano-playing man like me.